traversée atlantique est désormais une réalité.
Bonjour, dans le fil de l'histoire aujourd'hui, troisième épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'OTAN. Pourquoi en 1949 a-t-on créé l'OTAN? C'est la question que nous nous posons cette semaine avec l'historienne Jenny Raflick. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment en pleine crise du blocus de Berlin, face à la menace soviétique, 12 États ont signé le traité de l'Atlantique Nord qui allait donner naissance à l'OTAN. Aujourd'hui, le cas particulier de la France.
À Cherbourg, les opérations de déchargement du cargo American Importer se sont déroulées en présence de M. Pleven, ministre de la Défense nationale. Porteur de canons livrés à la France dans le cadre des accords militaires du pacte atlantique, le bâtiment, contrairement à certains pronostics, a été déchargé dans le calme.
1950, cela fait exactement un an que les Français ont signé le traité de l'Atlantique Nord. Des armes américaines sont donc livrées en France. Avec la guerre de Corée qui vient d'éclater, où l'on a vu les communistes du Nord, fortement armés par les soviétiques, envahir la Corée du Sud, la France, comme les autres membres de l'OTAN, redoute plus que jamais une invasion soviétique. Cette année-là, la France devient la base principale de l'OTAN en Europe. C'est à Paris, à l'hôtel Astoria, près des Champs-Élysées, que dans un premier temps s'installe le QG du commandement suprême de l'Alliance, le SHAPE, l'acronyme pour Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, commandé par le général Dwight Eisenhower. Le QG déménagera ensuite à Roquencourt, dans les Yvelines. Un journaliste français s'étonne de la présence partout du SHAPE. À Paris, dit-il, on croise des voitures immatriculées SHAPE, de la place de l'Étoile par un service d'autobus SHAPE, tandis qu'en banlieue, à Roquencourt, les promeneurs passent devant une forêt de pavillons SHAPE. Et dans toute la France, surtout vers les frontières belges et allemandes, on voit pousser comme des champignons des bases militaires de l'OTAN, utilisées essentiellement par les forces armées américaines, mais aussi canadiennes et britanniques, chaque année plus nombreuses. Des bases aériennes, des dépôts de matériel, de munitions, de transmission, des hôpitaux militaires et bien sûr des habitations pour loger les dizaines de milliers de soldats de l'OTAN. En 1957, 71 000 militaires américains seront stationnés en France.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
À Châteauroux, par exemple, dans l'Indre, à côté de la base aérienne proprement dite, les Américains construisent une véritable ville dans la ville. Des magasins, des logements, des chapelles, des terrains de sport, une école, une station d'épuration, un réseau d'égouts, un circuit de distribution d'eau, des installations d'hydrocarbures, une voie ferrée, des appartements pour les soldats et des pavillons pour les gradés, avec des rues qui s'appellent Ohio Street ou Nevada Avenue. Mais il arrive que les boys s'aventurent dans downtown Châteauroux et rencontrent la population locale. Une cohabitation parfois difficile. En 1958, pour améliorer leur image et expliquer leur présence, les Américains commandent un film de propagande intitulé « À votre service » où l'on voit des Français énervés par les embouteillages provoqués par les longues files de jeeps, l'omniprésence dans les cafés et les cinémas des boys qui parfois osent draguer les jeunes filles du pays.
Quand militaires et civils doivent partager la même portion de sol, c'est délicat pour les uns comme pour les autres. Quand ce sont des soldats de chez nous, c'est déjà difficile à supporter. Mais quand il s'agit de soldats d'un autre pays, même alliés, ça devient intenable. Évidemment, les soldats, ça prend de la place. Mais il en faut beaucoup pour assurer notre défense. C'est pourquoi, quand vous désirez parfois qu'ils s'en aillent, souvenez-vous qu'ils ne demanderaient pas mieux que de retourner dans leur famille, mais qu'ils sont là pour vous.
Thank you. À votre service.
Dans ce film, le Français, agacé par cette présence gênante et inhabituelle, a donc fini par dire « thank you » aux gentils soldats américains. Mais la contestation prend des accents plus politiques de la part des communistes qui, dans ces années 50 en France, continuent d'obtenir des scores importants aux élections. Le Parti communiste et le quotidien L'Humanité dénoncent, je cite, « l'occupation américaine » et placardent des affiches condamnant l'impérialisme des États-Unis avec des slogans célèbres « Les Américains en Amérique »,« US, go home »,« La France ne sera pas un pays colonisé ».
Les Américains en Amérique et la France en République. Les Américains en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non. Messieurs les Yankees.
Jenny Rafli, comment les Français dans leur ensemble ont-ils accueilli d'abord l'entrée de la France dans l'OTAN ?
Alors, il y a deux types, finalement, de réactions. La première, majoritaire, c'est une forme d'indifférence. 1949-1950, on est en plein dans la reconstruction. Les problèmes matériels sont bien plus importants, bien plus prioritaires dans l'esprit des Français. Et finalement, la situation internationale, elle passe après. Par contre, il va y avoir à partir de 1950 les Français qui sont au contact des Américains, ceux qui vont voir s'installer les bases américaines. Et là, effectivement, la situation va être un petit peu différente. Et d'ailleurs, la plupart des villes concernées voient très vite des municipalités communistes s'installer, arriver au pouvoir. Alors, certaines étaient déjà là et d'autres vont tomber assez rapidement dans l'escarcelle du Parti communiste. Du côté du Parti communiste, il y a deux choses. Il va y avoir l'utilisation du contexte international, et dans les slogans, on voit bien qu'il y a deux thèmes qui sont vraiment surexploités. Il y a le thème de l'occupation, parce qu'on est quand même quelques années après l'occupation allemande. Et le deuxième thème, on est en plein dans les guerres de décolonisation, Indochine puis Algérie, c'est le thème de la colonisation américaine de l'Europe, et en particulier de la France. Et le Parti communiste va investir un discours nationaliste, qui est assez surprenant hein, aujourd'hui avec le recul, mais par exemple la défense du bon vin français contre le Coca-Cola américain, voilà, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une américanisation de la vie quotidienne qui est perçue comme un danger politique, comme un danger identitaire, et puis évidemment un symbole très fort qui va s'opposer au communisme et à d'autres valeurs, mais aussi en termes de consommation et de vie économique, de modèle économique.
Notre pays devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques que cela comporte. Tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises.
Général Flick, on le sait, le général de Gaulle en 1966 va faire sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Quels sont les événements qui expliquent cette décision ?
Alors, vraiment, le premier événement fondamental qui permet à De Gaulle de prendre cette décision, c'est que la France dispose désormais de l'arme nucléaire. Oui. Et donc, elle peut assurer seule sa propre dissuasion nucléaire et sa propre défense. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est finalement aussi un intérêt stratégique de sortir, alors surtout pas de l'OTAN, mais seulement du commandement intégré de l'OTAN. Ça veut dire que ce sont les bases de l'OTAN qui est installée en France qui déménage. Le siège de l'OTAN déménage, quitte Paris et va s'installer à Bruxelles. Et les bases de l'OTAN vont déménager vers les pays voisins, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, etc.
Mais quelle est la différence entre alliance et commandement intégré ?
L'alliance, elle est née du traité de Washington, l'ensemble des institutions restent en place. Le commandement intégré, c'est vraiment ce qui est apparu en 1950, après la guerre de Corée. C'est pas dans le traité. Pour la France, ça impliquait éventuellement... La France est en train de se doter de l'arme nucléaire à ce moment-là, et l'OTAN commence à se doter d'une doctrine d'emploi de l'arme nucléaire. Ça aurait pu impliquer de faire passer le nucléaire français sous une décision collective de l'OTAN. C'est ce que voulaient d'ailleurs les Américains, hein, c'est ce qu'ils défendent à ce moment-là. Et puis, ça impliquait de dépendre des décisions collectives pour les plans de défense, et notamment la crainte assez forte de se voir embarqué dans d'autres conflits. En fait, les Européens sont plus tellement en demande à ce moment-là parce que Staline est mort depuis 1953 et on craint beaucoup moins une agression soviétique sur l'Europe. En revanche, il y a la guerre du Vietnam, il commence à y avoir des tensions au niveau de ce qu'on appelle, alors de ce qui s'appelle à l'époque le tiers-monde, mais à comprendre au sens guerre froide, c'est-à-dire le troisième bloc entre le bloc communiste et le bloc de l'OTAN et des démocraties occidentales. Il y a eu Suez avec une crise de confiance très forte dans l'allié américain. Il faut rappeler qu'à Suez, les Américains et les Soviétiques s'entendent pour faire reculer les forces franco-britanniques. Et donc, il y a à la fois moins de peur et moins de confiance dans l'allié américain. Donc, la volonté de reprendre une indépendance.
Cette situation donc perdurera jusqu'en 2009, année où la France va réintégrer le commandement de l'OTAN. Merci Jenny Raflick. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'OTAN va évoluer après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide.